Aristote, catégorie, section 2, théorie, partie 1, chapitre 4, sommaire, énumération des 10 catégories, exemple de chacune, distinction des mots isolés et des mots formant par leur réunion soit une affirmation, soit une négation. Paragraphe 1. Les mots, quand ils sont pris isolément, expriment chacun l'une des choses suivantes. Ou substance, ou quantité, ou qualité, ou relation, ou lieu, ou temps, ou situation, ou état, ou action, ou enfin passion. Paragraphe 2. La substance, c'est par exemple, afin de parler par image, homme, cheval. La quantité, c'est de deux coudées, de trois coudées. La qualité, c'est blanc, grammatical. La relation, c'est double, demi, plus grand. Le lieu, c'est dans la place publique, dans le lycée. Le temps, c'est hier, l'an passé. La situation, c'est être couché, être assis. L'état, c'est être chaussé, être armé. L'action, c'est couper, brûler. La souffrance, c'est être coupé, être brûlé. Paragraphe 3. Aucun des mots que nous venons d'énumérer n'emporte seul et par lui-même l'idée d'affirmation ou de négation. C'est seulement par la combinaison de ces mots les uns avec les autres, que se forment l'affirmation et la négation. Toute affirmation, en effet, toute négation, doit être vraie ou fausse. Les mots, au contraire, qui ne sont pas combinés avec d'autres mots, n'expriment ni vérité ni erreur. Ainsi, homme, blancheur, court, triomphe. Chapitre 5. De la substance. Sommaire. Distinction de la substance en première et seconde. Les substances secondes ne sauraient exister sans les substances premières, qui leur servent de sujet, soit d'attribution, soit d'inhérence. L'espèce, parmi les substances secondes, est plus substance que le genre. Identité des espèces entre elles, identité des substances premières. Les espèces et les genres sont les seules substances secondes. Propriété de la substance, premièrement, elle n'est point dans un sujet, objection et réponse à l'objection. Deuxièmement, toutes les attributions tirées des substances sont synonymes, ainsi que celles des différences. Troisièmement, toute substance exprime un être réel, objection et réponse à l'objection. Quatrièmement, la substance n'a pas de contraire. Cinquièmement, elle n'est pas susceptible de plus et de moins. Sixièmement, propriété principale, elle est susceptible, tout en conservant son identité, de recevoir les contraires. Objection et réponse à l'objection. Paragraphe 1. La substance. Dans l'acception la plus exacte, la substance première, la substance par excellence. Et celle qui ne se dit point d'un sujet et ne se trouve point dans un sujet. Par exemple, un homme, un cheval. Paragraphe 2. On appelle substances secondes les espèces où existent les substances qu'on nomme premières, et non seulement les espèces, mais aussi les genres de ces espèces. Par exemple, un homme est dans l'espèce homme, mais le genre de l'espèce homme, c'est animal. Ainsi, homme, animal, c'est ce qu'on appelle les substances secondes. Paragraphe 3. Il suit évidemment de ce qui précède que l'appellation et la définition des choses dites d'un sujet sont attribuées aussi à ce sujet. Par exemple, homme se disant d'un homme quelconque comme sujet. L'appellation d'abord est attribuable puisqu'on peut attribuer homme à tel homme. Et de plus, la définition de l'homme s'applique également bien à cet homme quelconque, puisque tout homme est homme et en outre animal. Ainsi, l'appellation nominale et la définition seront attribuées parfaitement au sujet. Paragraphe 4. Pour les choses au contraire qui sont dans un sujet, ni le nom ni la définition ne peuvent être attribués le plus souvent à ce sujet. Parfois, cependant, l'appellation peut être attribuée. Mais pour la définition, il est impossible qu'elle le soit jamais. Ainsi, la blancheur qui est dans un sujet, dans un corps, est attribuée au sujet. Car on dit d'un corps qu'il est blanc, mais quant à la définition de la blancheur, elle ne sera jamais attribuée à ce corps. Paragraphe 5. Toutes les choses autres que les substances se disent des substances premières prises comme sujet, ou bien elles sont dans ces substances qui leur servent de sujet. Ceci est évident si l'on examine chacun des exemples cités. Par exemple, animal se dit en parlant de l'homme. Par conséquent, on l'attribuera à un homme quelconque. Car si l'on ne pouvait l'attribuer spécialement à aucun homme, on ne le dirait pas davantage de l'homme en général. Autre exemple, la couleur est dans le corps. Donc, elle doit être aussi dans un corps quelconque. Car si elle ne pouvait être dans aucun des corps particuliers, elle ne serait pas du tout dans le corps. Il en faut conclure que toutes les choses autres que les substances premières, ou se disent de ces substances prises comme sujet, ou bien sont dans ces substances qui leur servent de sujet. Si donc il n'y avait pas de substances premières, les autres non plus ne sauraient exister. Paragraphe 6. Parmi les substances secondes, l'espèce est plus substance que le genre, car elle est plus rapprochée de la substance première. Si l'on veut, en effet, faire comprendre ce que c'est que la substance première, on s'expliquera d'une manière plus claire et plus propre en prenant l'espèce plutôt que le genre. Par exemple, si l'on veut définir un homme, on se fera plus comprendre en prenant l'espèce homme qu'en prenant le genre animal. L'une est, en effet, plus rapprochée d'un homme quelconque, l'autre, au contraire, est plus générale. Si l'on veut définir un arbre, on se fera mieux comprendre en prenant l'espèce arbre qu'en prenant le genre végétal. Paragraphe 7. D'un autre côté, si les substances premières sont plus spécialement appelées substances, c'est parce qu'elles sont le sujet de toutes les autres choses, et que toutes les autres choses ou sont attribuées à elles ou sont en elles. Le rapport des substances premières à toutes les autres est précisément celui de l'espèce au genre, car les genres sont attribués aux espèces, mais les espèces ne sont pas attribuées réciproquement au genre. Ainsi, l'espèce sert de fondement au genre. On peut donc aussi conclure que l'espèce est plus substance que le genre. Paragraphe 8. Quant à toutes les espèces qui ne sont pas genre, elles ne sont point, comparativement entre elles, plus substance les unes que les autres. Car on ne se fera pas mieux comprendre en définissant l'homme pour définir un homme qu'en définissant le cheval pour définir un cheval. Paragraphe 9. Et de même encore, pour les substances premières, elles ne sont pas entre elles plus substances les unes que les autres. Un homme n'est pas plus substance qu'un bœuf. Paragraphe 10. C'est donc bien avec raison qu'après les substances premières, on ne reconnaît dans tout le reste, pour substances secondes, que les espèces et les genres seulement. Car seules, parmi les attributs, elles expriment la substance première. Que l'on veuille, par exemple, définir ce que c'est qu'un homme, on le définira fort bien en définissant l'espèce ou le genre. Seulement, on se fera mieux comprendre en prenant homme plutôt qu'animal. Mais si l'on définissait une chose quelconque parmi toutes les autres choses, cette définition serait tout à fait déplacée. Par exemple, si l'on définissait blancheur, court, ou telle autre chose pareille. Ainsi donc, c'est avec raison que parmi toutes les autres choses, le genre et l'espèce sont seuls reconnus pour substance. Paragraphe 11. De plus, c'est parce que les substances premières sont le fondement de toutes les autres choses et que toutes les autres choses ou en sont les attributs ou sont en elles, qu'elles sont appelées substances par excellence. Ce que ces substances premières sont à toutes les autres choses, les genres et les espèces de ces substances premières le sont à tout le reste, car c'est à eux que tout le reste est attribué. Si l'on dit par exemple qu'un homme est grammairien, on pourra dire aussi que l'homme et l'animal sont grammairiens et ainsi du reste. Paragraphe 12. Une propriété commune à toute substance, c'est de n'être point dans un sujet. Ainsi, la substance première n'est pas dans un sujet et ne se dit d'aucun sujet. Quant aux substances secondes, il est tout aussi évident qu'elles ne sont pas dans un sujet. L'homme, en effet, peut se dire d'un homme quelconque comme sujet, mais n'est point dans ce sujet, car l'homme n'est point dans un homme. De même, l'animal peut se dire d'un homme comme sujet, et pourtant, l'animal n'est point dans un homme. J'ajoute que, pour les choses qui sont dans un sujet, rien n'empêche que leur appellation puisse parfois être attribué au sujet, mais il est impossible que la définition s'y applique jamais. Pour les substances secondes, au contraire, l'appellation et la définition sont attribuées également au sujet. En effet, on attribuera la définition de l'homme à un homme quelconque et celle de l'animal s'y attribuera tout aussi bien. Ainsi, la substance ne saurait être mise au nombre des choses qui sont dans un sujet. Paragraphe 13. Ceci, du reste, n'est point spécial à la substance, puisque la différence aussi est une des choses qui ne sont pas dans un sujet. Ainsi, terrestres, bipèdes, se disent de l'homme comme sujet, et cependant ne sont pas dans un sujet, car le bipède, le terrestre, n'est pas dans l'homme. La définition de la différence est attribuée à l'objet dont est dite cette différence. Par exemple, si terrestre se dit en parlant de l'homme, la définition de terrestre se dit aussi de l'homme, car l'homme est un animal terrestre. Paragraphe 14. Du reste, ne craignons pas, parce que les parties des substances sont dans leurs entiers comme dans des sujets, d'être obligés de repousser ces entiers du nombre des substances, car, en disant que telle chose était dans un sujet, nous n'avons pas prétendu dire qu'elles y fussent comme les parties dans un tout. Paragraphe 15. Les substances et les différences ont cette propriété que tout ce qui vient d'elles est nommé synonymiquement, car toutes les attributions qui en viennent s'appliquent à des individus ou à des espèces. Il n'y a pas de catégorie qui découle de la substance première, parce qu'elle ne se dit d'aucun sujet. Mais parmi les substances secondes, l'espèce est attribuée à l'individu. Le genre est attribué à la fois aux espèces et aux individus. Les différences sont dans le même cas et s'attribuent aux espèces et aux individus. Les substances premières peuvent recevoir la définition des espèces et celle des genres. L'espèce admet aussi la définition du genre, parce qu'en effet, tout ce qu'on peut dire de l'attribut peut se dire également du sujet. De même, les espèces et les individus reçoivent la définition des différences. Plus haut, nous avons appelé synonymes les choses dont l'appellation était commune et la définition identique. Ainsi, tout ce qui dérive des substances et des différences est dénommé par synonymie. Paragraphe 16. Toute substance semble désigner un objet réel. Pour les substances premières, il est incontestablement vrai qu'elle désigne quelque chose de réel, puisque ce qu'elle désigne est toujours un individu et une unité numérique. Quant aux substances secondes, bien qu'elles semblent, par la forme même de l'appellation, désigner aussi une chose spéciale, comme lorsqu'on dit « homme, animal », ceci n'est pourtant pas exact. Elle désigne plutôt une chose qualifiée. En effet, le sujet ici n'est pas un comme la substance première, puisque homme, animal, se disent de plusieurs hommes, de plusieurs animaux. Paragraphe 17. Pourtant, elle ne désigne pas non plus absolument une chose qualifiée, comme le ferait cette expression, le blanc. Le blanc ne désigne en effet rien de plus qu'une qualité. Mais le genre et l'espèce limitent la qualité à la substance, puisque le genre et l'espèce désignent une substance qualifiée de certaines manières. Cependant, la définition est plus compréhensive par le genre que par l'espèce, car on y renferme plus de choses quand on dit « animal » que quand on dit « homme ». paragraphe 18. Les substances possèdent la propriété de ne point avoir de contraire. En effet, où est le contraire de la substance première? Le contraire d'un homme, par exemple, d'un animal. Évidemment, il n'y a point ici de contraire. Il n'y a rien de contraire, ni à l'homme, ni à l'animal. Paragraphe 19. Du reste, ceci n'appartient pas exclusivement à la substance. Ce caractère appartient aussi à plusieurs autres catégories, et entre autres à celle de la quantité. Il n'y a pas de contraire à deux coudées, trois coudées, pas de contraire au nombre 10, pas de contraire à aucune des choses du même genre, à moins qu'on ne soutienne que peu est le contraire de beaucoup, petit de grand. Mais, quant aux quantités définies, elles ne sauraient jamais avoir de contraire. Paragraphe 20. La substance ne paraît pas susceptible de plus ni de moins. Je ne veux pas dire qu'une substance ne soit pas plus ou moins substance qu'une autre substance, car j'ai déjà dit qu'il en était ainsi. Mais je veux dire que chaque substance ne peut être plus ou moins ce qu'elle est. Par exemple, si telle substance est homme, elle ne sera ni plus ni moins homme. L'homme ne sera ni plus ni moins homme que lui-même. Ce ne sera ni plus ni moins homme qu'un autre. En effet, un homme n'est pas homme plus qu'un autre. De la même façon qu'une chose blanche est plus ou moins blanche qu'une autre, qu'une chose belle est plus ou moins belle qu'une autre. On peut bien dire sans doute qu'une chose a du plus ou du moins comparativement à elle-même. Ainsi, d'un corps blanc, on dit qu'il est maintenant plus ou moins blanc qu'auparavant. D'un corps chaud, qu'il est plus ou moins chaud. La substance, au contraire, n'est jamais ni plus ni moins substance, car on ne peut pas dire qu'un homme soit maintenant plus homme qu'auparavant. Et de même, pour toutes les autres substances. Ainsi, la substance ne paraît susceptible ni de plus ni de moins. Paragraphe 21. La propriété la plus spéciale de la substance semble être que tout en restant une seule et même chose, elle peut recevoir les contraires. Pour toutes les autres choses, en effet, qui ne sont pas substances, on ne saurait dire qu'une seule et même chose reçoive les contraires. Ainsi, par exemple, la couleur, qui, numériquement, est une seule et même chose, ne sera pas à la fois blanche et noire. De même qu'une seule et même action ne saurait être en même temps bonne et mauvaise. Ceci s'applique sans exception à toutes les choses qui ne sont pas substances. Pour la substance, au contraire, bien qu'elle reste une et identique, elle n'en reçoit pas moins les contraires. Ainsi, un homme, un seul et même homme, peut être tour à tour blanc et noir, froid et chaud, bon ou méchant. Paragraphe 22. Quant aux autres choses, on n'y découvre rien de pareil, à moins qu'on ne soutienne que la parole, la pensée, peuvent admettre les contraires. Une même assertion, en effet, semble pouvoir être fausse et vraie. Par exemple, si l'on dit avec vérité de quelqu'un qu'il est assis, cette même assertion sera fausse si cette personne vient à se lever. Et de même pour la pensée. Car si l'on pense vrai en pensant que quelqu'un est assis, cette pensée deviendra fausse si la personne se lève et que l'on conserve relativement à elle, la même pensée. Paragraphe 23. Même en admettant cette objection, il y a ici une différence formelle. C'est qu'en ce qui concerne les substances, elles ne sont susceptibles des contraires que par suite d'un changement qu'elles-mêmes éprouvent. Ainsi, le corps qui devient froid, de chaud qu'il était, a subi un changement puisqu'il devient autre. Ainsi, de noir il devient blanc, de bon il devient mauvais. Et de même, pour toutes les autres choses, c'est parce qu'elles éprouvent chacune un changement qu'elles sont susceptibles des contraires. Mais la parole et la pensée restent elles-mêmes absolument et toujours immuables. Et c'est seulement parce que l'objet vient à changer qu'elles reçoivent les contraires. Ainsi, cette assertion que quelqu'un est assis demeure la même, mais la chose venant à changer, l'assertion peut être tour à tour fausse et vraie. Il en est de même pour la pensée. Ainsi donc, en ce sens, ce serait une propriété de la substance, spéciale du moins dans la forme, d'être susceptible des contraires, par cela seul qu'elle éprouve elle-même un changement. Paragraphe 24. Tout en admettant encore que la parole, la pensée sont susceptibles des contraires, on peut dire que cette opinion n'est pourtant pas tout à fait exacte. Si l'on dit que la parole et la pensée reçoivent les contraires, ce n'est pas qu'elles reçoivent réellement quelque chose, mais c'est de fait dans un autre objet que se passe ce changement. C'est uniquement parce que la chose même est ou n'est pas de telle façon que l'assertion peut être dite vraie ou fausse, et non pas parce que la parole elle-même serait susceptible des contraires. Rien, en effet, ne saurait faire changer ni la parole ni la pensée en sorte qu'elles ne reçoivent point les contraires, en ce sens qu'aucun changement ne survient en elle. Quant à la substance, c'est parce qu'elle reçoit elle-même les contraires qu'on peut dire qu'elle est susceptible des contraires. En effet, la substance reçoit également et la maladie et la santé, et le blanc et le noir. Et c'est parce qu'elle éprouve elle-même toutes les modifications de ce genre qu'on dit qu'elle est susceptible de recevoir les contraires. Paragraphe 25. Ainsi, le propre de la substance serait, tout en restant identique et numériquement une, d'admettre les contraires par un changement qu'elle éprouve elle-même. Paragraphe 26. Terminons ici ce qui concerne la substance. Chapitre 6. De la quantité. Sommaire. Division de la quantité en fini et continu. Division de la quantité selon que ses parties ont ou n'ont pas de position dans l'espace. Quantité finie. Nombre, parole. Quantité continue. Ligne, surface, solide, temps. Espace. Quantité dont les parties ont une position. Signe, surface, solide, espace. Quantité dont les parties n'ont pas de position. Nombre, temps, parole. Les quantités énumérées sont les seules quantités vraies, les autres ne sont qu'accidentelles. Exemples divers. Propriété de la quantité. Premièrement, la quantité n'a point de contraire. Objections diverses et réponses à ces objections. Deuxièmement, une quantité n'est ni plus ni moins quantité qu'une autre. Troisièmement, propriété principale, la quantité seule peut être dite égale ou inégale. Paragraphe 1. La quantité est ou définie ou continue. Elle se compose soit de choses dont les parties ont entre elles un rapport de position, soit de choses dont les parties n'ont pas de position respective. Paragraphe 2. La quantité définie est, par exemple, le nombre et la parole. La quantité continue, c'est la ligne, la surface, le corps et de plus le temps et l'espace. Paragraphe 3. En effet, il n'y a pour les parties du nombre aucun terme commun dans lequel elles s'unissent. Ainsi, 5 est bien une partie de 10, mais 5 et 5 ne tiennent l'un à l'autre par aucun terme commun. Ils sont l'un et l'autre des quantités définies. 3 et 7 ne se lient pas davantage par un commun terme. Et, en général, pour le nombre, on ne saurait en lier les parties par aucun rapport commun. Ces parties sont toujours des quantités définies. Le nombre doit donc être rangé parmi les quantités définies. Paragraphe 4. La parole en fait également partie. D'abord, il est évident que la parole est une quantité, puisqu'elle se mesure par des syllabes brèves et longues. Je veux dire la parole articulée, et l'on ne peut rapporter les parties qui la composent à aucun terme commun. Il n'est point de terme commun qui joigne les syllabes entre elles. Elles sont, chacune par elle-même, des quantités définies. Paragraphe 5. Au contraire, la ligne est une quantité continue, car il est possible d'assigner un terme commun où aboutissent ces parties. Et ce terme, c'est le point. Paragraphe 6. Comme pour la surface, c'est la ligne, car toutes les parties du plan se réunissent dans ce terme commun. Paragraphe 7. Le solide aussi a un terme commun du même genre, car on peut regarder la ligne ou la surface comme le terme commun dans lequel s'unissent toutes les parties du solide. Paragraphe 8. Le temps et l'espace sont dans le même cas, car d'une part le présent tient à la fois et au passé et à l'avenir. Paragraphe 9. Et d'autre part, l'espace aussi doit compter parmi les quantités continues, puisque les parties du corps qui aboutissent par leur réunion à un terme commun occupent toujours un espace. Donc, les parties de l'espace qu'occupent chacune des parties du corps se réunissent dans ce même terme commun où se réunissent les parties du corps lui-même. Donc, l'espace est une quantité continue, puisque ces parties aboutissent par leur réunion à un terme commun. Paragraphe 10. En outre, on a dit que certaines quantités sont formées de choses dont les parties ont entre elles un rapport de position, et d'autres ne sont formées que de choses dont les parties n'ont point de position. Paragraphe 11. Ainsi, les parties de la ligne ont relativement les unes aux autres une position, car chacune est placée dans un lieu distinct. Et l'on pourrait dire et indiquer précisément où chacune est posée dans le plan et à quelle autre partie elle se lie. Paragraphe 12. De même, les parties du plan ont une certaine position, et l'on pourrait dire pour chacune également le lieu précis où elle est, et indiquer celle qui se lie entre elles. paragraphe 13. De même pour les parties du solide, pour les parties de l'espace. Paragraphe 14. Pour le nombre, au contraire, il serait impossible de montrer ni comment ces parties ont entre elles un rapport de position, ni où elles sont et comment elles se lient les unes aux autres. Même difficulté pour les parties du temps, car aucune des parties du temps n'est permanente. Et comment ce qui n'est pas permanent pourrait-il avoir une position ? On pourrait dire plutôt que les parties du temps ont entre elles un certain ordre, puisque dans le temps, telle partie est antérieure, telle autre postérieure. De même aussi pour le nombre, parce que 1 est nombré avant 2 et 2 avant 3. C'est là, si l'on veut, une espèce d'ordre, mais ce n'est pas une position. Paragraphe 15. De même, enfin, pour la parole. Aucune de ces parties n'est permanente. Une fois prononcée, on ne peut les ressaisir, de sorte qu'il ne peut y avoir aucune position pour ces parties, puisqu'elles ne sont pas permanentes. Paragraphe 16. Ainsi donc, certaines quantités sont formées de choses dont les parties ont une position, et certaines autres de choses dont les parties n'ont pas de position. Paragraphe 17. Les quantités proprement dites sont celles que nous avons énoncées. Toutes les autres ne sont des quantités que par accident. C'est seulement en vue des premières que nous nommons ainsi les autres. Par exemple, on dit une grande blancheur, par cela seul que la surface blanche est fort étendue. On dit d'une action qu'elle est longue parce qu'il s'écoule beaucoup de temps durant son accomplissement. Et c'est de même aussi qu'on dit un grand mouvement. En soi-même, aucune de ces choses ne peut être appelée quantité, car si l'on veut exprimer quelle est la quantité d'une action, il faut la déterminer par le temps et dire qu'elle dure une année ou tel autre espace de temps. Et de même pour la blancheur. Si on veut dire quelle est la quantité de la blancheur, on la déterminera par la surface. Et l'on mesurera la quantité de la blancheur à la quantité même de la surface. Ainsi donc, les seules quantités véritables, les seules quantités en soi, sont celles que nous avons dites. Quant à toutes les autres, elles ne sont pas quantité par elle-même. Elles ne le sont que par accident. 1, 2, 3. Paragraphe 18. La quantité, non plus que la substance, n'a pas de contraire. Pour les quantités définies, il est bien évident qu'elles n'ont pas de contraire. Par exemple, 2 coudées, 3 coudées, surface et toutes les choses de cet ordre n'en ont pas. Paragraphe 19. À moins qu'on ne prétende que beaucoup est contraire à peu, grand à petit. Paragraphe 20. Mais ces dernières choses ne sont pas des quantités, ce sont bien plutôt des relatifs. Rien, en effet, ne peut en soi être dit petit ou grand. Ce ne peut être jamais que par rapport à une autre chose. Ainsi, d'une montagne, on dit qu'elle est petite et d'un noyau qu'il est grand, parce que celui-ci est plus grand que les objets du même genre que lui, celle-là plus petite que les objets analogues. Il y a donc ici relation à un autre objet, car si ces objets pouvaient en eux-mêmes être grands et petits, on n'aurait pas dit que la montagne fût petite et le noyau grand. De même, on dit que dans un bourg il y a beaucoup de population et qu'il y en a peu dans Athènes, bien que de fait la population dans Athènes soit beaucoup plus nombreuse. On dit qu'il y a beaucoup de monde dans une maison et qu'il y en a eu peu au théâtre, bien que dans ce dernier lieu, il y en ait bien davantage. Paragraphe 21. C'est, je le répète, que deux coudées, trois coudées et autre chose du même genre expriment une quantité. Grand et petit, au contraire, n'expriment pas une quantité. Ils expriment plutôt un rapport. En effet, grand et petit ne se distinguent que relativement à un autre objet. Et il est clair que grand et petit sont de la catégorie des relatifs. Paragraphe 22. Du reste, qu'on les reconnaisse ou qu'on ne les reconnaisse pas pour quantité, on peut dire que grand et petit n'ont pas de contraire. Car d'une chose qu'on ne peut pas saisir et prendre en soi, d'une chose qui se rapporte à une autre, comment pourrait-on dire qu'elle a des contraires ? Paragraphe 23. Bien plus, si grand et petit sont contraires l'un à l'autre, il s'ensuivra qu'une seule et même chose pourra recevoir en même temps les contraires et que les choses seront contraires à elles-mêmes. En effet, une chose peut être à la fois petite et grande, petite par rapport à tel objet, grande par rapport à tel autre objet. De sorte qu'une seule et même chose peut être grande et petite au même moment, et qu'elle reçoit en même temps des contraires. Or, il n'est rien au monde qui paraisse pouvoir admettre en même temps les contraires. Dira-t-on que c'est la substance ? Certainement, elle admet les contraires. Mais pourtant, aucun être n'est à la fois malade et bien portant. Rien n'est à la fois blanc et noir. Parmi toutes les autres choses, il n'en est non plus aucune qui admette en même temps les contraires. Il s'ensuivrait aussi qu'une chose pourrait fort bien être contraire à elle-même. Car si grand est le contraire de petit, et qu'une même chose puisse être à la fois grande et petite, cette chose sera contraire à elle-même. Mais il y a impossibilité qu'une chose quelconque soit contraire à elle-même. Donc, grand n'est pas le contraire de petit, ni beaucoup de peu. Donc, même en admettant qu'on rapporte ces choses, non pas à la relation, mais à la quantité, elles n'auront pas davantage de contraire. Paragraphe 24. C'est surtout relativement à l'espace que la quantité semble avoir des contraires. En effet, on regarde le haut comme le contraire du bas, appelant le bas ce qui est vers le centre, parce que le centre est à la plus grande distance possible des bornes du monde. C'est même de là qu'on semble tirer toutes les définitions des autres contraires. Car les choses qui dans un même genre sont les plus éloignées les unes des autres, sont appelées contraires. Paragraphe 25. La quantité ne paraît pas susceptible de plus et de moins. Par exemple, une chose de deux coudées n'a ses deux coudées ni plus ni moins qu'une autre de même dimension. De même aussi pour les nombres. Trois ne sont pas trois, plus que 5 ne sont 5, et réciproquement. Le temps non plus n'est pas plus temps qu'un autre temps. De toutes les quantités que nous avons énumérées, aucune n'est ni plus ni moins quantité qu'une autre. La quantité ne paraît donc pas susceptible de plus et de moins. Paragraphe 26. La propriété la plus spéciale de la quantité, c'est d'être dite égale et inégale. En effet, on peut dire de chacune des quantités dont nous avons parlé qu'elle est égale et inégale. Le nombre, le temps, est dit égal et inégal. Et de même, pour toutes les quantités citées plus haut, on peut dire qu'elles sont égales et inégales. Quant aux choses qui ne sont pas des quantités, on ne pourrait dire avec exactitude qu'elles soient égales et inégales. Par exemple, d'une disposition, on ne peut dire qu'elle soit réellement égale et inégale. On doit dire plutôt qu'elle est semblable et dissemblable. La blancheur ne peut être dite réellement égale et inégale, mais plutôt semblable et dissemblable. Donc, la propriété spéciale de la quantité, c'est d'être dite égale et inégale.